Table ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse depuis Villefranche-de-Rouergue, table ovale sans ellipse autour de la table ovale. CFM invite tous les représentants locaux des partis, enfin du moins pour tous les partis politiques nationaux, les représentants locaux qu'ils veulent bien nous envoyer. Ce soir autour de la table ovale, autour de Claude Devesin, Fabien Lombard pour Debout la France, Fabrice Essay pour le Parti Socialiste et Laurent Tranier pour les Républicains. Et notre sujet de ce soir, c'est extrait de la loi Liberté de création, architecture et patrimoine qui a été débattue en première lecture à l'Assemblée nationale. Et j'en ai extrait quelque chose qui normalement nous concerne tous parce que nous habitons tous à proximité d'un monument historique ou dans des cités un peu anciennes. En tous les cas, nous sommes tous attachés à notre patrimoine et notamment à notre patrimoine bâti. Et dans cette loi, on prévoit la création de zones dite cité historique. Si j'ai bien compris, mais nos intervenants vont me dire si j'ai bien compris ou non, si j'ai bien compris, ces cités historiques sont appelées à remplacer d'une part ce qu'on appelait le secteur sauvegardé, qui transformait d'une certaine manière en monument historique tout un quartier, et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine qui, elles, établissaient un périmètre de protection autour d'un monument historique. Le monument historique pouvait bénéficier de subventions. Pour ce qui était autour, vous n'aviez guère que des obligations. Donc, ces cités historiques devraient fusionner ces deux systèmes. Est-ce qu'elles fusionneront tous les inconvénients et aucun des avantages, ou au contraire, tous les avantages et aucun des inconvénients? C'est ce que nous allons voir. Nous allons le voir d'autant plus âprement que à l'Assemblée nationale, il n'y a eu aucune transversalité sur ce débat, qui pourtant normalement n'est pas spécialement politique. Et la gauche tout entière, unie, a voté pour ce texte. Les centristes unis se sont abstenus et les républicains unis ont voté contre. Alors, on va prendre d'abord le représentant du Parti Socialiste, puisque c'est à l'initiative d'un ministre de sa famille qu'a été faite, soumise cette loi à la représentation nationale. Cette loi qui d'ailleurs parle de beaucoup d'autres choses, y compris les quotas de chansons françaises dans les radios, la création architecturale. Mais là, pour l'instant, pour l'heure, nous nous intéressons donc à la création de ces cités historiques et ce qu'elles vont changer pour nous. Donc, Fabrice Bessières.
Oui, monsieur Devesin, merci de me donner la parole. Eh bien oui, effectivement, comme vous le soulignez, on a pu constater lors des débats parlementaires, lors du vote à l'Assemblée nationale en première lecture, que nous avons sur une thématique qui n'est pas par nature clivante, nous avons eu pour autant un vote qui a été bloc par bloc, sans aucune transversalité, ce qui est à mon sens assez étonnant et à mon sens regrettable, parce que en fait l'objectif de cette loi est tout simplement d'amener à une simplification des processus de protection des espaces protégés en englobant effectivement, en fusionnant dans ce concept de cité historique les catégories que nous avions donc précédemment. Donc, un souci de simplification, tout en maintenant, et c'est clairement indiqué dans la loi, tout en maintenant les avantages fiscaux qui étaient jusqu'alors donc liés aux anciens mécanismes que nous connaissions. Donc, un souci de simplification sur les avec le maintien des avantages fiscaux.
Maintien des avantages fiscaux des secteurs protégés ou des AVAP? Parce que les AVAP, il n'y avait pas les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui venaient à la place des ZPPAU, des avantages fiscaux, il ne me paraissait pas évident.
Il n'y a pas de création de nouveaux avantages fiscaux. Mais ceux qui existaient sont maintenus. Et c'est vrai que certains parlementaires, notamment dans les rangs des Républicains, c'était ému de cette question. Il y avait eu notamment des amendements sur ce point, mais les choses étaient très clairement indiquées dans la loi. Les avantages fiscaux sont maintenus.
Monsieur Lombard, à Debout la France, le patrimoine français, c'est important. Et qu'a-t-on pensé de cette loi et comment se sont comportés vos représentants?
Bonjour, merci de m'inviter également. Justement, vous le dites à juste titre, le patrimoine donc de notre domaine national est primordial, puisqu'encore une fois, c'est donc la transmission d'une histoire, d'une culture, et c'est ce qui donc constitue donc un critère également d'identification, d'intégration entre territoires nationaux. Alors, c'est en ce sens justement que donc Nicolas Dupont-Aignan, à l'occasion donc des débats parlementaires, a voté contre la loi en question. Alors, juste pour recontextualiser un petit peu la chose et montrer qu'on ne s'est pas opposé bêtement pour s'opposer, parce que même si effectivement, je rejoins monsieur, là, le débat a été globalement plutôt politique et pas assez sur le fond. Alors, nous, à Debout la France, donc, on a quand même reconnu des avancées à cette loi. Je vais revenir, ça c'était historique, mais c'est primordial de recontextualiser. Par exemple, l'affirmation d'une liberté de création artistique, c'était absolument fondamental, notamment dans l'après-Charlie. C'était également fondamental que les artistes soient rémunérés à hauteur donc de leur production, un salaire minimal donc pour leur production numérique. Au niveau patrimonial, c'était fondamental de protéger le domaine national. Et c'est vrai qu'effectivement, on a une convergence, on a une avancée dans ce domaine. Mais par contre, il y a quand même un certain aléa. Et c'est en cela, donc, que Nicolas Dupont-Aignan s'est opposé. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, avec la création de ces cités historiques, effectivement? Donc, elles sont appelées, donc, à remplacer, donc, bien sûr, les secteurs protégés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Ce qu'on dit nous par là, c'est que finalement ces cités historiques, elles seront donc, elles feront monopole des communes, c'est-à-dire que l'État se désengage finalement dans le règlement des cités historiques. Ça c'est fondamental, c'est-à-dire que ce sera les communes qui seront compétentes en la matière. Ce qu'on craint par ce mécanisme, c'est que finalement donc l'État ne se désengage et que les communes finalement aient des prérogatives qui concernent un domaine national, c'est-à-dire qu'en fait une compétence et un échelon territorial donc local et des compétences sur un domaine qui concerne l'ensemble de la nation. Et ça c'est absolument fondamental et ça peut désagréger, ça peut remettre en cause donc la solidité, ça peut fragiliser donc notre patrimoine national et il faut absolument être en garde contre les dangers d'une telle politique qui, si elle est vraie sur le fond, vise à une simplification qui peut être louable. Effectivement, surtout qu'on garde les critères de convergence fiscale.
Concrètement, qu'est-ce qu'on craint ? Une commune va s'occuper de délimiter les zones de cité historique. Qu'y a-t-il à redouter ?
Mais il y a à redouter finalement que donc on peut redouter du clientélisme selon les communes en question. On peut en tout cas redouter finalement que le destin du patrimoine national, c'est fondamental, c'est quand même un patrimoine qui nous appartient à tous, qui est au-delà donc des limites donc de toute collectivité territoriale, soit finalement au seul main donc des communes et des desiderata des apparatchiks locaux. Et ça c'est absolument dramatique. Et il faut en cela finalement que l'État, c'est une prérogative régalienne dans le service public de la culture nationale, il faut que l'État puisse garder finalement la main et puisse garder donc la possibilité donc de gérer et de délimiter ce qui doit constituer le patrimoine national. Le confier aux communes, c'est encore une fois le symbole de cette désagrégation qui anime l'État.
Est-ce que la loi modifie les modalités d'inscription aux monuments historiques ?
En tout cas, elle les simplifie. Et justement, moi je trouve que l'inscription donc aux cités historiques est absolument vague là-dedans. On avait jusqu'à présent donc un procédé qui faisait donc les monuments historiques pouvaient être donc entrés par soit par classification, soit donc par inscription. Donc classement, inscription, donc avec chaque fois une protection particulière qui variait
une
selon le degré. Une différence sensible de subvention selon la protection qui était accordée donc soit au classement, soit à l'inscription. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un flou absolu autour des cités historiques. On a voulu simplifier. Finalement, on est en train de déstructurer, d'ébranler le système de protection de notre équilibre et du patrimoine national.
Monsieur Tranier, pour Les Républicains.
Oui, bonsoir à tous. Le système de protection, de mise en valeur et de rénovation du patrimoine architectural, essentiellement français, il date de 1962. C'est la loi Malraux qui a créé les secteurs sauvegardés.
Les secteurs sauvegardés, c'est 62, c'est Malraux. Et ensuite, les monuments historiques, c'est plus d'un siècle.
Tout à fait, c'est la fin du 19e siècle. Et depuis Malraux, ces dispositifs ont connu un certain nombre de développements, une complexification. C'est vrai qu'avec des acronymes pas forcément très heureux, on a connu les ZPPUP, donc les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les AVAP,
qui remplaçaient les ZPPUP, ni plus ni moins, en rajoutant le périmètre, qui est un rayon, des monuments historiques qui étaient rajoutés lorsqu'il avait été rogné dans les ZPPUP.
Voilà, qui est une variante des ZPPUP. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est un changement de nom, qui me semble, ma foi, heureux. Avoir une ZPPUP, c'est pas forcément très très sexy sur son territoire, alors qu'il s'agit en général d'un très beau quartier avec une vraie richesse patrimoniale. Mais ça comme ayant accompagné cette évolution dans la dénomination ou dans le statut des quartiers souvent centraux historiques dans les villes anciennes françaises, il y a une réduction des aides fiscales à la rénovation qui était à la base du dispositif Malraux. Il s'agit de protéger, mais il s'agissait aussi d'aider les particuliers propriétaires de bâtiments avec une valeur patrimoniale à les rénover en leur accordant des avantages fiscaux, des réductions d'impôts. Donc aujourd'hui,
notamment dans le secteur sauvegardé, pas dans les ZPPV.
Si, tout à fait. Moindre dans les ZPPV que dans le secteur sauvegardé, mais également dans les ZPPV. C'était, si vous voulez, une différence de degré. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, on en vient à une loi qui me semble, pour une large part, cosmétique, mais c'est une bonne chose. Je pense qu'on change de nom pour un nom qui sera cité historique, ma foi, qui est pas mal. Le risque étant, effectivement, que les aides continuent, les aides à la rénovation, continuent à s'étioler. Parce que, on le sait, on le constate, l'État se désengage d'un peu tout, en essayant, à chaque fois qu'il le peut, de confier la responsabilité et surtout le financement aux collectivités. Et c'est là que je rejoins Monsieur Lombard. On a raison de changer de nom, mais derrière, on voit pas trop où on veut en venir, sinon à réduire l'intervention de l'État, qui, même si elle s'est réduite, reste quand même intéressante dans les dispositifs dits Malraux, qui ont permis à des villes comme, près de nous, je pense à Figeac, quand même, qui est un bel exemple de réussite du dispositif Malraux, dans les années 70-80, surtout les années 80, de se rénover en profondeur par des aides massives aux particuliers propriétaires des belles maisons figeacoises. Voilà.
Le sommet de la promotion pour l'investisseur étant d'avoir du Robien Malraux, puisqu'il cumulait donc les subventions d'un propriétaire créant des logements locatifs et d'un propriétaire dans un bâtiment de secteur sauvegardé.
Pour conclure, pour moi, cette loi, c'est une loi d'affichage où finalement le contenu reste très vague. Et d'ailleurs, Villefranche, qui possède une ZPPAUP et qui est dans une démarche d'aller vers le secteur sauvegardé, donc qui a un niveau supérieur à la fois de protection, mais aussi d'aide à la rénovation pour le patrimoine du centre-ville, de la Bastide, eh ben, on s'interroge, on attend de voir. Voilà, il y a une loi, et puis après, il faudra voir quelles sont les incidences de cette loi au niveau fiscal, parce que c'est pas aussi clair que semble nous le dire M. Vesseyre. Et puis on verra, voilà, on va voir avant de s'avancer vers un dispositif qui est quand même contraignant pour les propriétaires, pour les collectivités, savoir où on va. Voilà, donc pour l'instant, le problème, c'est le flou.
Alors je crois qu'on a deux aspects, quand on vous écoute, finalement, on a deux aspects. La réalité et l'efficacité de la protection, c'est une chose. Et puis, c'est aussi la réalité et l'efficacité, le financement. Mais enfin, c'en est quand même une autre. Alors déjà, moi, je propose que dans un premier temps, on parle de la réalité de la protection. C'est ce qu'évoquait un peu M. Lombard en disant, ça va être les maires, ils vont faire ce qu'ils vont vouloir. Donc certains vont sans doute vouloir protéger davantage, d'autres, au contraire, s'embêter le moins possible et moins protéger. Alors, du point de vue... Et puis, il y a aussi des règles et des obligations qui doivent être assorties, je suppose, à ces cités historiques. Alors, du point de vue de l'efficacité, de l'effectivité de la protection, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de mieux ou de moins bien, Monsieur Bessière?
Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été indiqué tant par Monsieur Lombard que par Monsieur Tranier, à savoir ce désengagement de l'État au travers de ce texte. D'abord, je trouve que faire ce procès aujourd'hui à l'État sur la base de ce texte qui vise au contraire à augmenter la protection de notre patrimoine, notamment architectural, est assez malvenu quand on sait que, par exemple, les Républicains, UMP à l'époque, en juillet 2010, lors du vote de la loi Grenelle 2, au travers d'un article, avait fait en sorte qu'il y ait pas moins, ça avait été évalué à peu près 600 espaces protégés qui devaient disparaître. Donc je trouve que le procès qui est fait de vouloir voir une volonté de désengagement de l'État est particulièrement malvenu. Par ailleurs, parler de désengagement de l'État en disant par exemple que désormais ce seront les communes qui seront amenées à décider, ce n'est absolument pas la teneur du texte. Le texte est très précis. Il indique que ce sont les collectivités qui gèrent les PLU. Donc concrètement, soit les communes, soit les communautés de communes, qui auront l'initiative, plan locaux d'urbanisme, qui auront la possibilité de prendre l'initiative pour proposer que ce secteur cité historique donc soit retenu. Le pouvoir de décision, en revanche, bien évidemment, reste à l'État. L'État n'abandonne pas cette sphère de compétence.
Si des gens considèrent qu'il y a lieu de mettre en place une sauvegarde et pas la municipalité, que se passe-t-il ?
Seule la collectivité qui gère le plan local d'urbanisme a la possibilité de le proposer et de monter un dossier. Ce qui se fera peut-être, nous verrons bien, sur Villefranche-de-Rouergue. Mais la collectivité donc propose, l'État prend l'avis des architectes des bâtiments de France et l'État décide. Donc il n'y a pas de désengagement, ni au niveau de la procédure et du pouvoir décisionnel, ni en termes financiers, puisque, je le répète, alors M. Tranier indiquait que le texte n'était pas très très clair. De mémoire, ce sont les alinéas 90 à 100 de l'article 24 qui précisent que les avantages fiscaux des mécanismes antérieurs sont maintenus.
Oui.
Mais alors, dans le cas de Villefranche,
les avantages fiscaux ne dépendent pas d'un texte sur le patrimoine, hein, vous le savez, ils dépendent de la loi de finances.
Tout à fait.
Alors après, qu'un texte patrimoine.
Deuxième partie. Voilà. Mais dans le cas de Villefranche, la municipalité de Villefranche dit oh, ce ZPPAE ne nous a apporté que des ennuis, on va supprimer tout ça et on ne fera pas de cité historique. On n'en fera pas, donc il y aura juste le périmètre, c'est-à-dire le rayon autour des monuments classés, et puis ça s'arrêtera là, nous on n'en fait pas. C'est un dommage apparemment vis-à-vis du patrimoine. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? L'État dit non, il faut faire une cité historique, ou non, c'est comme ça, tant pis, il n'y aura pas de cité historique à Villefranche-sur-Ouergue.
Non. Ou caricaturer, et c'est pas ce que j'ai dit. La ZPPAUP.
Je vous accuse pas de vouloir faire ça. Dis,
c'était hypothèse, d'accord. La ZPPAUP, qui est en place à Villefranche, n'a pas eu d'effet miraculeux, parce que les aides, donc, que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont de la défiscalisation pour les propriétaires qui rénovent, avec des conditions de location derrière.
C'est un homme d'argent. Hein. Pour l'instant, on parle de la protection.
Oui,
on
mais si vous voulez, protéger sans rénover, ça n'a pas de sens. Protéger, c'est aussi rénover. Enfin, rénover, c'est protéger, d'ailleurs. Donc, il faut des moyens pour le faire, parce qu'on sait que c'est particulièrement coûteux sur du patrimoine. Donc, bon, cette ZPPAUP nous a apporté beaucoup de contraintes architecturales, urbanistiques, qui sont exprimées à travers les avis de l'architecte des bâtiments de France, qui était certainement dans son rôle. Mais on se rend compte aussi que pour une ville comme Villefranche, qui a besoin d'adapter ses logements, son habitat aux contraintes et aux attentes des populations d'aujourd'hui, respecter toutes les contraintes qui étaient celles d'une ZPPAUP et qui demain seront celles d'une
cité historique,
parce qu'il y aura plusieurs types de cités historiques, d'accord, hein, on simplifie mais ça reste complexe. Il y aura les cités historiques plus, donc ce sera le nouveau nom des secteurs sauvegardés d'aujourd'hui, avec une protection renforcée et des contraintes supplémentaires et une aide pour rénover qu'on espère maintenue. Si vous voulez, il y a un équilibre à trouver. Enfin, il faut bien sûr qu'on a un patrimoine très important à Villefranche. La municipalité actuelle a consacré des efforts énormes pour rénover notre patrimoine, notamment les monuments historiques, les bâtiments religieux, l'espace public. Il y a eu des aides aussi pour aider les particuliers à rénover leurs habitats, leur logement. Donc on investit beaucoup, mais il faut pas que les contraintes de protection du patrimoine empêchent une vie agréable et dans les conditions attendues au XXIe siècle dans un centre-ville comme Villefranche. Voilà.
Est-ce qu'il faut trouver là l'origine du vote négatif des Républicains ?
Non, je crois que le vote des Républicains, c'est M. Besser, est quand même peut-être un procès d'intention, mais qui est quand même justifié quatre années d'expérience du gouvernement actuel sur le désengagement qu'on redoute de l'État et sur les aides à la rénovation. Voilà. Pour une loi qui apporte quand même pas grand chose à part changer de nom. Et c'est vrai que le nom ancien des ZPPP, tout ça, c'est très, très moche. Donc, ça va s'appeler cité historique, c'est mieux. Mais à part ça, ça change pas grand chose. Sinon que ça nous apporte quelques craintes, ma foi, justifiées par les récents, les lois récentes sur la pérennité des financements.
Monsieur Lambert, on vient d'avoir une explication, parce que d'une certaine manière, on dit, c'était bien la ZPPE, mais qu'est-ce que ça nous a cassé les pieds quand même, pourvu que ça nous apporte de l'argent, parce que sinon, vraiment. Donc on a, me semble-t-il, pour Villefranche, je préjuge pas, mais il se peut que dans certaines communes, on n'ait pas envie de l'étendre, on n'ait pas envie d'en faire. Est-ce que c'est ça que vous redoutiez
Absolument. Et d'ailleurs, pour rebondir à ça, propos de M. Vesser, il a raison, effectivement, dans le sens où les communes ou les collectivités compétentes, qu'importe, intercommunalités ou communes, ont compétence pour proposer. Effectivement, c'est l'État qui a compétence pour décider. Mais c'est sur une proposition préalable. Donc,
s'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de décision.
Le désengagement est réel. C'est-à-dire que la commune, du coup, a marge de manœuvre en matière d'initiative. Ça, je pense que c'est incontestable. Donc, du coup, certain désengagement apparaît. Et effectivement, le risque étant qu'une commune ou une intercommunalité décide effectivement de décider selon ses bons desiderata, sans prendre en compte, finalement, la réalité historique, la richesse culturelle d'un lieu. Et pour également continuer en matière de désengagement de l'État, parce que c'est quand même important, il faut aussi savoir que les crédits, parce que c'est finalement la clé, là je rejoins M. Tranier, malheureusement parler financier ça peut paraître, si je puis dire, déplacé dans ce contexte, mais pas du tout,
puisque finalement
le financier permet effectivement de permettre la protection, puisque sans argent on fait rien, malheureusement, ou non. Il s'avère également que les crédits donc qui sont alloués donc au ministère donc de la Culture et de la Communication ont été diminués de 110 millions d'euros. C'est une baisse historique. Donc,
En proportion, en pourcentage.
Là, c'est depuis le quinquennat, voilà. Donc, ça fait un tour, je ne me trompe pas, ça fait un tour de 2,3, je crois, de baisse pour l'année. Hein. Je ne l'ai pas noté, mais c'est à vérifier quand même. C'est une baisse historique quoi, qui arrive. Et donc, du coup, sachant que donc, les crédits concernent également, donc, du coup, finalement, le patrimoine et l'architecture, on peut parler concrètement des engagements de l'État. Mais nous, finalement, le vote de Nicolas Dupont-Aignan pour une loi un petit peu fourre-tout, mais qui avait quand même des aspects positifs. Hein. Ce vote négatif, il s'explique par ça, par ce désengagement de l'État, au détriment finalement de notre unité patrimoniale nationale, puisqu'encore une fois, les communes auront force de proposition dans le règlement de cité historique, force de proposition, c'est-à-dire que rien ne pourra se faire sans leur proposition préalable. Ce qui est absolument dramatique dans certains cas pour finalement notre unité patrimoniale. Elle est là finalement l'explication de notre vote négatif. Elle n'est pas motivée par quelconque considération politique. C'est vraiment un souci de conserver en l'état nos patrimoines et ne pas justement le faire varier, le faire fluctuer en fonction d'intérêts politiques locaux.
Alors, on a vu que la création ou non d'une cité historique, sa délimitation, ça allait regarder. Enfin, la loi n'est qu'en première lecture, mais ça regarderait les communes et les communautés de communes. Mais l'État se désengage, mais est-ce qu'il ne laisse-t-il pas un testament avec des obligations réglementaires à l'intérieur de ces cités historiques, ou est-ce que c'est la commune qui va dire ce qu'elle fait dans ces cités historiques, Monsieur Vessier?
Non, je pense que, alors d'abord, je trouve un peu... Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a un procès d'intention qui est fait aux élus locaux qui peut-être n'auraient pas la volonté de garantir la protection du patrimoine que nous devons transmettre aux générations futures. Moi, je crois que bien au contraire, nous avons sur l'ensemble du territoire des élus de qualité qui sont attachés à leur territoire, qui sont attachés à leur patrimoine et par-delà les clivages politiques. Et donc, je pense que, voilà, le fait de donner à ces élus cette possibilité de monter un projet, d'avoir ce pouvoir d'initiative, à mon sens, c'est une excellente chose. Ensuite, Monsieur Devezin, désolé.
Ma question, c'est, d'une part, bon, il y a l'existence de la cité historique, sa délimitation, oui. Et puis, il y a la nature de ce qu'on a à faire dedans. Donc, quelle est la réglementation, il faut bien appeler les choses par le nom. Est-ce que ça va être les communes qui vont le faire un règlement de cité historique, ou est-ce qu'il y a un cadre qui fait que vous faites une cité historique, vous appliquez tel règlement?
Alors, je pense que M. Lombard et M. Tranier ont, comme moi, regardé le texte. Je pense qu'autour de cette table, mis à part vous peut-être, monsieur de Vezin, aucun de nous n'est un spécialiste en la matière. Mais ce qui ressort, à mon sens clairement du texte, c'est que la collectivité, donc qui gère le plan local d'urbanisme, prend l'initiative de monter un projet, il monte un dossier, il fait la proposition à l'État, et ensuite l'État, après avis des architectes des bâtiments de France, vont pouvoir mettre en place, décider d'un cahier des charges, effectivement, plus ou moins contraignant, selon le schéma qui sera choisi, puisque la collectivité, dans sa proposition, va indiquer si elle souhaite opter pour ce que monsieur Tranier appelait la cité historique plus, c'est-à-dire le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, ou un système beaucoup plus allégé, un projet beaucoup plus simple, qui est simplement un plan local d'urbanisme pour une cité historique. Donc voilà comment les choses devraient, en tout cas la lecture du texte, et du texte à ce jour, il va être en discussion au Sénat, il reviendra à l'Assemblée, nous verrons ensuite au regard du texte final, mais voilà comment, à mon sens, les choses sont présentées dans ce texte voté début octobre.
Je crois qu'on voit que le fait que on incorpore au plan local d'urbanisme la préoccupation de patrimoine et ses réglementations, alors qu'avant c'était plus ou moins à côté, ça a effectivement une importance essentielle. Ça définit bien quel va être le pouvoir des communes et des collectivités et des communautés de communes, puisque le plan local d'urbanisme, on sait qu'il leur appartient, c'est vraiment elles qui le définissent, et on incorpore cette protection du patrimoine au plan local d'urbanisme. Monsieur Tranier.
Vous savez, l'État est quand même très présent auprès des collectivités. L'État a de moins en moins d'argent pour intervenir, mais il a toujours autant de fonctionnaires qui ne se privent pas d'intervenir auprès des collectivités. Et quand vous dites que le PLU...
On voit des locaux vides dans beaucoup de préfectures. Hein.
Oui, mais quand vous dites que le PLU appartient aux communes, le PLU et les PLUI appartiennent aux communes, mais étroitement encadrés par les services territoriaux de l'État, qui se chargent de faire respecter la réglementation nationale, qui est très contraignante à la matière. Et pour ce qui est des... Prenons l'exemple de la ZPPAUP de Villefranche, l'initiative, c'est celle du maire de Villefranche, qui a saisi le service de l'État en leur disant, voilà, nous on a un centre-ville avec un intérêt évident, patrimonial, et donc on souhaite aller dans cette démarche et aidez-nous à le faire. Donc l'État a apporté son expertise, c'était au milieu des années 2000. Aujourd'hui, on était dans la démarche pour devenir secteur sauvegardé, donc avec effectivement un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Mais c'est en étroite relation avec les services de la DRAC, avec les bâtiments de France. Et il y aura une étude préalable qui doit être faite, pour aller dans cette direction-là, qui sera aussi très étroitement surveillée par les services de l'État. Donc, moi, je rejoins sur le principe l'opposition de M. Lombard et de Debout la République, mais France. Debout la France, pardon, et de Debout la France, c'est... Le fait que l'initiative de la protection du patrimoine revienne seulement au maire, c'est une sorte de rupture de l'égalité républicaine pour la protection de notre patrimoine. C'est vrai que le maire qui aura cette attention-là, il ira vers les dispositifs de protection. Celui qui aura moins la sensibilité...
Mais en qui sera sous la surveillance étroite et vigilante de l'État.
Oui, oui, mais c'est pour ça que sur le principe, je partage cette réserve. Mais en réalité, je pense que cette loi changera très peu de choses. Avec un État qui a de moins en moins de moyens, qui a tendance à imposer de plus en plus de règles, et des élus locaux qui sont un peu entre le marteau et l'enclume de vouloir protéger leur patrimoine, adapter leur ville, avec l'État qui leur donne moins de moyens, mais plus de contraintes.
Il n'y a pas que les élus qui ont des contraintes, si véritablement il y a moins de moyens, parce que les subventions, elles étaient, quand c'était des bâtiments communaux, donnés aux communes, mais quand c'était des particuliers, le particulier qui était tout content d'avoir son Robien Malraux, il avait des subventions abondantes, et c'est pas les communes, c'est le particulier. Alors on en vient, puisque vous êtes décidément irrémédiablement vénal, on en vient à ce qu'on va perdre ou pas en matière de subventions et notamment, je pense, parce que vous pensez aux collectivités, vous avez bien raison, c'est nous aussi, mais on a aussi été particuliers. Alors, est-ce que on va les accabler d'obligations, puisque vous avez dit l'État va être vigilant, il va surveiller sérieusement ce qu'on prescrit, ou est-ce qu'on va leur donner des subventions équivalentes, plus, moins qu'auparavant? Qu'est-ce que vous avez vu chez Debout la France dans ce domaine-là?
Ce qu'il y a justement là-dedans, c'est que, et là je rejoins un petit peu monsieur Fessier, c'est-à-dire que on a tous lu effectivement le projet de loi, le projet de loi encore sous les yeux.
Vous félicite.
C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que même à la lecture de ce projet, moi j'en suis ressorti avec un certain flou. Je pense que le mot est bien choisi. Ça revient à dire que concrètement, aujourd'hui, effectivement, on le répète, mais il s'agit donc de mutualiser donc les secteurs sauvegardés et les AVAP, mais fusionner est un meilleur terme. Mais concrètement, on ne sait pas justement quels avantages ou quels inconvénients va-t-on prendre de l'un ou de l'autre. C'est le flou. Est-ce que par exemple, les avantages, tant dans la protection que dans le financement, seront tirés plutôt vers le haut, comme c'est le cas pour les secteurs sauvegardés? Ou est-ce que finalement, donc on aura donc un financement moindre, comme c'est le cas des AVAP? Moi, ce que je reproche à ce texte, c'est un certain flou quant au règlement donc, de protection donc, des cités historiques, enfin plutôt donc, du patrimoine qui sera inclus dans ces cités historiques. C'est donc véritablement un flou dans le règlement, et notamment dans l'aspect financier. Je ne sais pas, enfin, sauf si peut-être mes contradicteurs pourront apporter une preuve contraire, mais je n'ai pas aujourd'hui de preuve concrète et textuelle qui me permet de dire quels avantages, quels inconvénients va-t-on tirer des précédents organes de classement, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un flou total dans la protection et dans l'avenir finalement de notre patrimoine national, puisqu'encore une fois, je ne sais pas si ce sera tiré vers le haut, comme c'est le cas des zones protégées, ou si ce sera tiré vers des avantages moindres, des AVAP. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un flou, et c'est finalement ce qui est reproché à cette loi qui, encore une fois, part sur de bonnes bases. C'est-à-dire, d'ailleurs, rien que le nom de cité historique prouve encore une fois l'importance accordée à notre domaine national. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de procès d'intention à ce niveau-là. Il n'y a aucun doute. Moi, ce que je reproche, c'est le flou.
Moi, j'ai rajouté, et en me tournant vers M. Vessière, que c'est une occasion. Enfin, les fameux Malraux revient, c'est une occasion de faire des logements en centre-ville, parce que généralement, les zones de protection du patrimoine et donc les cités historiques sont rarement à la périphérie. Enfin, ça peut arriver, mais c'est une occasion de faire des logements. C'est là que je pense aux particuliers, dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que va y avoir un renforcement des subventions, faut appeler les choses par leur nom, hein, ou est-ce qu'au contraire, ça va diminuer? Au début d'émission, vous nous disiez, c'est le statu quo, ce qui était en AVAP va rester avec le même régime, et ce qui était en secteur sauvegardé aussi. Et M. Tranier nous dit, mais on se désengage de partout, on nous donne plus d'argent. M. Vessière.
Écoutez, moi, ce que je peux préciser sur ce point, c'est que, effectivement, je le redis pour la troisième fois, les avantages fiscaux qui existaient donc ne sont pas remis en cause, et ce n'est pas un engagement, c'est dans le texte de la loi. Après, pour ce qui est des aides aux collectivités, peut-être Monsieur Devezin que vous nous ferez le plaisir de nous réinviter pour avoir un débat sur la loi de finances une fois que celle-ci aura été votée. Mais bon, pour l'instant, elle est toujours en discussion. Le seul point qui aujourd'hui est acquis par rapport à cette loi de finances, et c'est aussi quand même une réponse à cette critique et à cette accusation de désengagement de l'État, le seul point qui a été acté et voté, c'est que les aides aux collectivités pour l'accompagnement technique sur la réalisation de ces dossiers, hein, qui sont à l'origine donc de ces cités historiques, eh bien ces subventions vont augmenter de 9%. Ça, c'est acquis, c'est acté, c'était dans les textes qui ont déjà été adoptés. Après, pour le reste, voilà, Monsieur Devezin, peut-être qu'il faudra que vous nous réinvitiez, soit par rapport à la loi de finances, ou s'il doit y avoir des textes modifiant le Code général des impôts.
C'est-à-dire que ce que peut faire le ministère de la Culture, c'est donner de l'argent pour élaborer les règlements et les limites. Et puis, pour le reste, à savoir le faire véritablement, il faut se tourner vers Bercy. Et donc, le ministère de la Culture prend peut-être des engagements qu'il n'est pas habilité à prendre.
Non, mais il faut pas rêver. Évidemment que les aides de l'État vont baisser, que ce soit pour les collectivités ou les particuliers, qu'en fait j'associe. Quand je dis les collectivités, je pense aussi aux particuliers qui souhaitent rénover, parce que c'est eux qui bénéficient des exonérations d'impôts. L'État procède toujours de la même façon, en fait. Il donne une responsabilité aux élus locaux, qui après auront l'initiative d'entrer dans des dispositifs pour sauvegarder le patrimoine. L'État leur dira, ah, mais vous voulez y aller, mais combien vous mettez sur la table? Voilà. C'est temps. Voilà. Nous, on vous aidera un petit peu. Et de la même façon, il aide les études, mais,
si vous voulez. Si elle t'aidera, c'est un vieux proverbe.
Oui. Hein, qui est de plus en plus moderne. Voilà, donc l'État, on a l'habitude, il nous met dans la seringue, voilà, il nous dit, allez, on vous aide un petit peu pour faire l'étude, vous verrez, c'est bien, ce sera bien ensuite, et puis à la fin, on entre dans des dispositifs qui sont au départ aidés, et progressivement de moins en moins. Et donc si on veut maintenir l'existant, c'est aux collectivités de financer ce qui a été mis en place, et l'État se désengageant massivement.
Les collectivités ne financeront pas des logements privés, même si c'est dans du secteur sauvegardé.
Mais simplement c'est simplement la défiscalisation qui va se réduire. Enfin, là, le levier, il est tout trouvé. D'ailleurs, ça a déjà été le cas depuis les lois de Malraux de 62. Les aides ont été jusqu'à 50 ou 60% de défiscalisation sur la rénovation. Aujourd'hui, on est à 22% pour les ATPUP, 30% pour les AVAP. Mais tout ça, c'est bassement vénal, comme vous dites. Mais c'est ça qui est déterminant, en fait. Hein, parce que aujourd'hui, c'est aussi rénover dans des secteurs sauvegardés, c'est aussi des produits financiers. Et c'est une façon d'attirer de l'argent pour rénover que d'avoir ces incitations fiscales. Et ce qu'ils font, ce sont des propriétaires locaux qui peuvent ainsi peut-être profiter d'exonération d'impôts pour rénover leur maison. Mais c'est aussi des investisseurs qui sont conseillés par des cabinets de gestion de patrimoine et qui vont rénover des logements dans des villes que peut-être ils connaissent même pas, mais qui leur permettent de défiscaliser. Voilà. Si ces investisseurs-là disparaissent, c'est nos centres-villes qui vont en pâtir. Aujourd'hui, c'est ça, si vous voulez, la colère de ceux qui s'opposent à cette évolution. Qui en fait est.
Et que M. Vessière renvoie à la loi de finances.
Oui, mais il est. Voilà, je pense qu'il y vient. C'est vrai que le texte de Mme Pellerin, la ministre, dit que les avantages seront les mêmes que ceux que prévoient les lois de finances, en fait. Voilà. Sauf que les lois de finances, demain, on ne sait pas ce qu'elles prévoiront. Et aujourd'hui, les subventions, elles se réduisent dans tous les domaines. Donc je ne vois pas pourquoi il en serait différemment là, quand on connaît l'état de notre pays et l'état de ses finances publiques.
Alors. Cette loi, là, on a fait le tour, je crois, sur les cités historiques, à moins que vous vouliez l'un ou l'autre rajouter quelque chose. Mais sur le patrimoine généralement urbain, pas seulement, hein, on a aussi des paysages, mais dans le patrimoine urbain, on a dans cette loi quelque chose sur, et là c'est tout à fait récent, nouveau, quelque chose sur le patrimoine d'intérêt architectural récent. Est-ce que ça vous paraît intéressant? Est-ce que ça vous paraît dangereux? Comment imaginez-vous que on trouve un intérêt à un patrimoine architectural récent? Comment est-ce que ça va être organisé? Est-ce que vous avez une idée là-dessus, Monsieur Lombard, pour Debout la France?
Ça fait partie des points de cette loi qui sont tout à fait admissibles et qui tendent dans le bon sens. Alors encore une fois, ça peut être la porte ouverte à tout, dans le sens où se situe donc la limite d'un intérêt architectural récent. Il n'empêche qu'encore une fois, l'intérêt paysager, l'intérêt artistique, l'intérêt donc historique n'est pas forcément comment dire, le monopole des siècles les plus anciens. Et en effet, on peut trouver donc dans les constructions architecturales récentes des intérêts qui font qu'une protection est absolument entendue et possible. Et là-dessus, il y a aucun problème. Et je pense que c'est une avancée qui me paraît bonne et qui va donc dans le sens justement d'une diversification donc de la culture. Ma foi, je n'ai pas forcément d'opposition à émettre là-dessus.
Est-ce que le législateur donne une idée de la façon dont on va sélectionner les choses, M. Vessière?
Je suis désolé, mais là, oui. je n'ai pas d'éléments particuliers sur ce point. Je ne peux pas apporter de détails précis, mais voilà, enfin, je vais...
Ce sera différent du classement. On aurait pu dire, on étendra le classement aux époques contemporaines. Et c'est créer un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural récent. Ce qui, effectivement, paraît a priori globalement légitime et intéressant. Mais qui va faire la sélection? Vous avez une idée, monsieur Tranier, là-dessus?
Non, j'ai pas la moindre idée de qui fera la sélection. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est évidemment qu'il y a de très belles réalisations architecturales contemporaines ou modernes, enfin récentes, qui méritent, comme celle de siècles plus lointains, d'être protégées. Le patrimoine de demain se construit aujourd'hui, pourrait-on dire. Mais effectivement, on est encore dans quelque chose de flou, extrêmement flou, un petit peu... C'est un petit gadget aussi. C'est un petit signal qu'on envoie, voilà, mais avec aucun contenu. Hein, donc... On verra ce que le décret d'application nous dira de ce que c'est que le patrimoine
Patrimoine d'intérêt architectural,
voilà,
récent.
Le patrimoine d'intérêt architectural récent. Bon, sur le fond, on peut être que d'accord. Il y a de très belles réalisations contemporaines, bien sûr.
Alors, dans les dispositions aussi patrimoniales de cette loi, pas seulement. Et alors là, le ministère de la Culture déborde de part. Normalement, ça devrait être plutôt l'Arche de la Défense, hein, puisque, si j'ai bien compris, on envisage de créer des zones d'expérimentation architecturale. Et il faut se souvenir que ça vient après l'augmentation du coefficient d'occupation du sol, hein, qui a déjà à peu près 2 ans, hein, qui était une loi Voynet, si je ne me trompe pas. Et donc, dans ces zones d'expérimentation architecturale, qui pourront être créées dans des villes, qui dérogeront aux règles d'urbanisme, on envisage une majoration de 5% du volume autorisé. Alors, est-ce que là aussi, vous allez tous me renvoyer au flou de la loi, parce que 5% du volume autorisé, j'ai une idée de ce que ça peut être, mais ben, c'est pas évident à légiférer et à réglementer. Monsieur Lombard, vous...
Non, la question architecturale est au cœur donc des problèmes d'aujourd'hui. Il y a des impératifs qui se posent à nous aujourd'hui donc sur la question architecturale, donc des impératifs qui tiennent donc à une occupation de l'espace, effectivement, des impératifs qui tiennent à une transition donc écologique. Donc effectivement, la question architecturale est à, je dirais, à bon gré à étudier. Alors l'idée donc de pouvoir faire fluctuer donc la, parce que c'est ça dont il s'agit en fait, hein, de donner une certaine marge de manœuvre par rapport au code de l'urbanisme. Pourquoi pas, dans le fond, si ça permet donc d'en arriver finalement à des impératifs d'utilité publique, donc quant à la question donc architecturale, encore une fois, puisque des impératifs se posent à nous aujourd'hui, hein, du fait des évolutions économiques et sociétales. À voir jusqu'où ça va, mais ma foi, je trouve pas forcément très choquant de donner une marge de manœuvre donc dans les constructions architecturales, puis si ça va dans le bon sens, justement, des impératifs nouveaux qui se posent à nous, pourquoi pas.
Mais a-t-on une idée,
qu'est-ce qui se cache derrière ?
A-t-on une idée de ce que peut être cette majoration de 5% du volume bâti ? Est-ce que la loi en parle un peu précisément, pas, ou de temps en temps, c'est quelque chose qui me paraît à l'ordre du jour, puisque on se plaint de manquer d'espace, on se plaint de manquer de densité, on a augmenté le cost d'ailleurs justement pour ça, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais on est là aussi au flou, ou pas, ou aussi, vous n'avez peut-être pas lu entièrement tout ce que je vous pardonne bien volontiers, parce que c'est un texte...
C'est un texte, effectivement, qui est particulièrement dense et qui traite d'énormément de points. On aurait pu évoquer aussi, par exemple, la protection accrue en s'agissant du mobilier rattaché au bâtiment historique. Donc c'est vrai, il y a énormément de points qui sont évoqués.
C'est important, parce qu'on a vu des bâtiments classés, inscrits, se faire déshabiller par des propriétaires.
Complètement. Alors après, voilà, sur ce que vous évoquiez, à savoir ces 5%, vous trouvez que le concept est flou. La difficulté, c'est qu'une loi n'est pas là pour tout régler dans le détail. La loi est là pour poser les principes généraux. Après, il appartiendra aux administrations concernées d'établir les décrets d'application. Moi, ce que je retiens, c'est que nous avons, avec cette mesure complémentaire, un nouvel outil qui est donné aux élus de terrain, ceux qui connaissent le mieux leur territoire, ceux qui connaissent le mieux le patrimoine local, un outil supplémentaire pour valoriser celui-ci. Alors après, ils voudront ou ils ne voudront pas le faire. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est un outil complémentaire. Est-ce que ça peut nous concerner sur Villefranche ça, je l'ignore. À la différence, en revanche, c'est vrai, de des constructions contemporaines, puisque en vous écoutant, Monsieur Tranier, je me disais que peut-être que si notre commune présente un projet de ce type, peut-être verrons-nous alors quelques dispositions destinées à préserver cette construction moderne que constitue la fontaine de la place Notre-Dame.
Tu vois, si elle est moderne, c'est un mobilier urbain.
Mais c'est vrai que elle fait partie elle est entrée dans le patrimoine architectural villefranchois, que la municipalité actuelle est très attachée à rénover et à relever quand il le faut, patrimoine contemporain, patrimoine ancien, hein, que nous avons trouvé il y a quelques années dans un état de délabrement très 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 avancé et qui aujourd'hui fait l'objet d'efforts importants, que ce soit à la Chartreuse, que ce soit à la chapelle des Pénitents Noirs, que ce soit la chapelle Saint-Jacques, que ce soit aussi la collégiale qui a bénéficié d'importantes rénovations.
Il y a des bâtiments privés qui sont rénovés autour de la collégiale.
Bien sûr, bien sûr. Il y a eu en effet la place Notre-Dame qui est unanimement considérée comme une réussite et magnifique à cet effet d'entraînement sur son voisinage proche. Voilà. Mais pour en venir peut-être à revenir à cette loi, je crois qu'elle est assez symptomatique de l'attitude du législateur depuis, alors pas seulement cette législature, mais depuis longtemps, où on multiplie des textes qui ont en fait peu de sens, peu de contenu, qui sont des déclarations d'intention, qui n'apportent que à la marge des améliorations. Et puis donc on a de plus en plus de textes, ça en fait partie, donc c'est quelque chose de volumineux qui traite de beaucoup de sujets, c'est fourre-tout, je crois que le mot a été utilisé. Il n'y a rien dedans de vraiment important ni qui va vraiment changer fondamentalement quoi que ce soit, sinon on est dans le comportement d'un gouvernement qui se désengage, qui rend des responsabilités aux élus et qui retire des moyens pour mener à bien les missions au niveau local.
Alors à propos des missions, il me vient une question en vous écoutant. Tout le monde nous explique que bon, la loi c'est un cadre, elle est floue, mais c'est bon. Mais en même temps, vous nous expliquez tous, et c'est effectivement la banalité de la chose, mais habituellement, la loi situe quand même un peu, vous nous dites les décrets d'application, et j'aimerais bien que, pour les auditeurs, pour tout le monde, pour nous, puisque vous êtes plongé dans le travail législatif, à plus ou moins d'un titre, mais enfin, vous faites de la politique, est-ce que ça n'est pas justement une reprise de l'État et plus que de l'État, en fait, de l'appareil de l'État, c'est plus l'État. À quel point la démocratie est respectée par des décrets? Comment ça se passe? Qui surveille que les décrets respectent la loi?
Je crois qu'on est dans des lois d'affichage, c'est-à-dire qu'on fait des lois pour envoyer des signaux à des électorats ou à des partis de l'électorat, en leur faisant croire qu'on fait des choses dans certains domaines. Voilà. Après, on invente des notions dans les lois, on en a évoqué plusieurs aujourd'hui, et puis il faut bien que un an, deux ans, trois ans, parfois cinq ans plus tard, parfois jamais, les fonctionnaires les transforment en textes applicables, et donc mettent du contenu dans des mots qui ont été inventés. On en est là, voilà. À quel point c'est démocratique, c'est très peu démocratique, à mon point de vue.
C'est pas absolument récent. Alors, je sais pas si on atteint un paroxysme ou pas, mais la question est, qui, derrière, contrôle que les décrets sont conformes à la loi, M. Bessière?
Écoutez, M. Devezin,
qui est un homme de loi.
Oui, non, mais je pense que nous avons tous autour de cette table les mêmes références. Hein. C'est pas tellement le juriste là qui va répondre. C'est plutôt que je crois que depuis Montesquieu, il faut qu'il y ait un équilibre. Et dans un état de droit, eh bien, lorsque le pouvoir exécutif prend des décrets pour appliquer un texte législatif, il est soumis au contrôle de juridiction. Et dans notre pays, c'est le Conseil d'État notamment qui est amené donc à se positionner. Mais voilà, ce n'est pas un désengagement, c'est le fonctionnement normal d'un État de droit. Et je pense que nous serons tous d'accord autour de cette table pour ne pas contester en tout cas le fait que nous sommes bel et bien dans un État de droit.
Monsieur Lombard, quelle est l'idée que se fait debout la France de l'emprise du fonctionnariat avec les décrets par rapport à la loi, et qui contrôle ça et qui saisit le Conseil d'État éventuellement ? Est-ce que c'est satisfaisant ?
Effectivement, sur le fait qu'on soit dans un état de droit, je pense qu'il n'y aura pas quand même on va pas aller quand même jusqu'à une contestation de ce phénomène, même si on peut des fois se poser des questions sur la réalité de la séparation de nos pouvoirs aujourd'hui dans certains domaines, mais c'est pas le but ici. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les décrets d'application sont effectivement contrôlés par la juridiction administrative, qui est compétente pour contrôler les contrôles, la légalité, je dirais, c'est-à-dire la compatibilité, des décrets d'application avec le texte législatif voté par le pouvoir législatif que constitue le Parlement. Donc effectivement, en cela, la juridiction administrative est compétente et le fait sur saisie de toute personne intéressée, qu'elle soit personne publique ou privée. Et il n'y a pas de gros scandale à ce niveau-là. La France est plutôt bien lotie dans la séparation de ses instances judiciaires et administratives pour que, la séparation soit encore effective aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de problème.
Sur ces paroles d'espoir, en constatant que les fonctionnaires fonctionnent et que l'état de droit est respecté, on conclut cette table ovale qui réunissait autour de Claude Devezin, Fabien Lombard pour Debout la France, Fabrice Vesseil pour le Parti Socialiste, Laurent Tranier pour les Républicains. Vous pourrez nous réécouter, puisque c'était très bien sûrement, vous pourrez nous réécouter dimanche, car c'est rediffusé à 11h. Et puis, vous avez le podcast. Alors là, vous pouvez nous écouter indéfiniment en podcast sur le site, ça sera dans quelques minutes, dans un mois, vraisemblablement à Rodez. Merci.
Bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir.